au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Et pourquoi quatre fois bonjour? Puis là, j'ai la réponse. Je vous le demande pas, j'ai la réponse déjà. Fait que depuis une semaine, il me semble qu'on a eu les quatre saisons, du moins dans la région montréalaise. Et puis, pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va être encore pluvieux là, dans le sud du Québec. Ça se dégage. De la pluie dans l'est, de la pluie aussi dans les provinces atlantiques. On est autour du 16 degrés, même 13 degrés dans le nord, 16 degrés dans le sud. Et puis, en Ontario, pour ceux qui nous écoutent de là-bas, on est dans des averses dans l'est ontarien. Dans le sud, c'est un dégagement. On est quand même autour des 20 degrés là-bas. Et comme j'ai dit, donc, en Atlantique, c'est des averses, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Même chose dans les provinces des Prairies, avec un beau 13 degrés. Et en Colombie-Britannique, il va faire soleil. On est autour de 22 degrés. Alors, on a une belle émission aujourd'hui. Commençons par présenter nos chroniqueurs. Mais, d'abord, un beau bonjour à Mathieu.
C'est moi, ça?
Oui.
Ah, ben.
Comment ça va?
Ben, il va bien.
Oui, puis t'es content, il y a de la pluie, c'est ça?
Ben oui. Ben, en fait, oui, parce que je me suis réveillé ce matin.
Voilà. Oui. Ben moi, c'est ça, je me dis maintenant, au lieu de critiquer la température, je vais dire, hey, je me réveille, je suis encore en vie. C'est déjà ça. Salut, Louis de Bernis.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, ben, t'es heureux, t'es en vie, c'est ça?
Oui, on est en vie, on n'est pas trop mouillé non plus. Donc, c'est
gérable. Des choses pires que ça dans la vie. Nous, on reçoit de la pluie, il y en a qui reçoivent des bombes. Faut relativiser dans la vie.
On va parler aujourd'hui à ma chronique, un sujet d'actualité. Hein. On parle beaucoup du prix de l'essence, du prix du gaz en ce moment. Je vais vous parler d'une voiture qu'on pourrait croire sortie du futur, mais qui est plutôt sortie du passé. Une voiture en forme de petit avion qui pouvait traverser les États-Unis avec un seul plein d'essence. C'était dans les années 70-80. Peut-être que ce modèle va être commercialisé maintenant que le gaz est si cher. Et puis une autre insolite, en Lituanie cette fois-ci, les autorités lituaniennes s'inquiète aussi pour relancer la natalité. Il y a peu d'enfants là-bas, donc ils ont réfléchi à plusieurs solutions, dont celle des boîtes de nuit, des mesures pour redynamiser les boîtes de nuit.
Bon, qui dit boîte de nuit parle de file d'attente, c'est vrai. Alors, Daniel Rioux...
des files d'attente, on parlait un peu avant, on commande même en ligne, donc même on fait la file pour les commandes. Oui, la file d'attente, c'est que le Royaume-Uni serait le champion des files d'attente. Et puis, c'est un article qui a paru dans le Courrier international. Puis, je vais vous faire découvrir tout ça. Puis, peut-être, si j'ai le temps un petit peu plus, les files d'attente ailleurs dans le monde.
Excellent. Et puis, nous, on va parler du festival Art souterrain de Montréal. On va aussi parler du défi Altergo qui s'est terminé en fin de semaine. Et on va parler avec Lyraël Dauphin pour son texte qui s'appelle « Tomber de moi au festival Jamais lu ». Lyraël qu'on voit dans la série télévisée, pour ceux qui aiment la télévision, moi j'aime bien ça aussi, la série donc rappelez-vous, Empathie. Elle jouait le rôle là, de cette personne infirmière dans cette série. Et juste peut-être un petit tour d'horizon de l'éphéméride du jour. Eh bien, en 1979, Margaret Thatcher devient la première femme première ministre du Royaume-Uni. Et c'est même un moment historique et qui marquera l'entrée aussi de ce pays dans des ères de réformes économiques et politiques très profondes. En 1929, naissait Audrey Hepburn, actrice britannique, icône de mode et humanitaire, hein, qu'on connaît pour My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's. Et puis, tiens, c'est la Journée internationale des pompiers aujourd'hui. On achète un calendrier, Daniel?
Non, pas
tout. Et puis, c'est le 4 mai, c'est la journée de la saga Star Wars. Vous savez pourquoi? Parce qu'en anglais, on dit « May the Fort ». Alors, « May the Force be with you ». Nous, on s'en va en musique.
On déplace de l'air. On se dit des choses aiguisées. On prend les chemins de travers. On se blesse souvent, on se surprend. À recommencer. J'arrive comme un orage dans la tempête. Je n'ai plus la force de me défendre. On n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre. On n'arrête pas de se perdre. chaque fois. Et c'est chacun pour soi. Je m'ennuie du temps où l'eau était calme. J'arrive comme un orage dans la tempête. Je n'ai plus la force de me défendre. On n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre. On n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre pour rien. Ce n'est qu'un de ces jours où je veux te laisser. Ce n'est qu'un
On n'arrête pas, une chanson de Lou Adriane Cassidy.
Bon, ben là, je vais quand même pas vous surprendre avec les unes ce matin. Imaginez-vous, si vous n'étiez pas endormi sous une pierre quelque part pendant les dernières, je dirais, 12 heures, derniers 12 heures. Ben, imaginez-vous que le Canadien de Montréal accède au deuxième tour des séries après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay, et ça en 6 rencontres, c'est dans à peu près toutes les unes des journaux ce matin. Hein. Alors, malgré une nette domination de l'équipe floridienne qui a dirigé 32 tirs vers le filet, le gardien Jakub Dobies a multiplié les arrêts clés pour assurer une victoire de 2-1. Cole Caulfield a ouvert la marque en première période avant de voir Alex Newhook inscrire le but victorieux lors de la troisième période. Cette victoire permet aux Montréalais de rejoindre les Sabres de Buffalo pour la suite de la compétition dès jeudi, donc la suite, la prochaine série. Et le Lightning de Tampa Bay, je le rappelle, hein, a remporté 2 Coupes Stanley consécutives en 2020 et en 2021. Le Devoir, le milieu du transport adapté au Québec, craint une dégradation majeure des services à la suite des compressions budgétaires et de changements opérationnels. La Société de transport de Montréal, par exemple, prévoit remplacer sa flotte de minibus par des berlines ou des fourgonnettes de transport qui sont servies par des taxis pour une grande partie de ses usagers. C'est une mesure visant à économiser 15 millions de dollars par année. Les regroupements de défense des droits dénoncent ce virage qui risque d'allonger les délais d'attente et de compromettre la sécurité des personnes à mobilité réduite. Plusieurs usagers et chauffeurs manifestent pour réclamer un réinvestissement gouvernemental afin de maintenir la qualité et la dignité des déplacements pour la clientèle vulnérable. La Presse Plus aussi, Christine Fréchette, qui donne le feu vert au déploiement du dossier de santé numérique, ce qu'on appelle le DSN. Le démarrage pourrait être complexe et comporter des bugs, mais il est hors de question de revivre un deuxième « ça clique », assure la première ministre. Le déploiement du dossier de santé numérique, un chantier technologique de 3 milliards de dollars, vise à centraliser les données médicales des Québécois. Ce projet remplace les anciens systèmes disparates par une plateforme unique accessible à l'ensemble des professionnels du réseau pour accélérer les diagnostics et réduire les examens redondants. Alors, quand vous allez parfois à l'urgence, il faut tout répéter, son historique médical, parce qu'il n'y a pas de centralisation des informations. Alors, les régions de Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie-Centre-du-Québec servent de projet pilote pour une implantation graduelle. Puis je pense qu'il y a aussi à Montréal, hein, le CIUS à Montréal aussi, qui devrait obtenir donc cette implantation. Ça commencerait vendredi. La conférence humanitaire de Berlin dans le Devoir sur le Soudan s'est conclue par des promesses de dons s'élevant à 2,4 milliards de dollars pour répondre à la guerre civile qui ravage le pays depuis 2023 quand même. Les Nations unies alertent sur un risque imminent de famine généralisée, alors que le conflit est responsable du déplacement de 14 millions de personnes, dont près du tiers, 4,5 millions, dans les pays voisins, déjà à court de ressources. Selon le Programme alimentaire mondial, le PAM, plus de 19 millions de personnes font face à la famine et plus de 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du Soudan, ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Ce fonds donc promis vise à sécuriser les couloirs d'aide humanitaire et à fournir des soins médicaux d'urgence dans les zones les plus isolées. La Presse Plus, Donald Trump a annoncé une opération à partir de ce matin pour débloquer les navires repris depuis 2 mois dans le Golfe, mais le commandement militaire iranien a prévenu de riposter. Cette décision fait suite à une série d'incidents ayant entravé la navigation dans cette voie maritime stratégique par où transite une part importante du pétrole mondial. Alors, Washington affirme que cette mesure est nécessaire pour garantir la liberté de navigation et la stabilité des marchés énergétiques. De son côté, l'Iran a immédiatement dénoncé cette intervention états-unienne, qualifiant l'initiative de provocation dangereuse et avertissant toute ingérence dans les eaux de la région, que ça entraînerait une riposte immédiate. Et puis, la télévision jeunesse, c'est dans Radio-Canada.ca d'hier, la télévision jeunesse prend un virage inclusif avec l'arrivée de nouvelles productions mettant en vedette des personnes en situation de handicap. Ces missions visent à offrir une représentation authentique aux enfants qui ne voient que trop rarement à l'écran, tout en sensibilisant. Oh, je vais reprendre ça parce que c'était mal écrit. Alors, ces émissions visent à offrir une représentation authentique aux enfants qui ne se voient pas trop souvent à l'écran et en sensibilisant aussi le jeune public à la diversité des réalités humaines. Les créateurs travaillent désormais de concert avec des consultants spécialisés pour assurer que les scénarios évitent les clichés et reflètent fidèlement le quotidien de ces jeunes. Une étude démontre que l'exposition à une diversité des personnages dès l'enfance favorise le développement de l'empathie et réduit les préjugés sociaux à long terme.
No Pain, No Gain, une chanson de France d'amour. On entendait aussi Soul Diar.
En tout cas, il n'y a pas de file d'attente quand on vient au micro ici à Canalem. On s'organise pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, hein, Mathieu?
Non.
Non, même si les micros sont attachés par des fils.
Ah oui. Ah. Et puis, on parle des files d'attente, puis on a parlé d'achat d'achat, hein, pour aller faire des achats. Puis on pourrait même parler d'achat en ligne parce que là, souvent aussi, il y a des attentes. Mais allons-y pour les files d'attente.
Oui. Ben, les files d'attente, c'est intéressant. C'est un article qui a paru dans le Courrier international. C'est dans le Londoner. L'article est de Anna Williams. Alors, je commence avec justement les files d'attente. Comme à l'aéroport, il y a des gens qui vont s'installer devant des restaurants. Ici, on donne l'exemple d'un restaurant de viande fondé au Liban, qui s'appelle le Swiss Butter. Et en tête se tient un agent de sécurité, parce que s'il n'y avait pas d'agent de sécurité, ben ce serait le chaos. Carrément, parce que les files d'attente sont longues, énormes. Et justement, les restaurants de viande se comptent par centaines en ville, je parle de Londres, et rien, justement, n'indique pourquoi certains sont prêts à attendre, même sous une pluie battante, comme aujourd'hui, pour entrer dans l'un de ces restaurants de viande-là.
On appelle ça, en passant, je fais juste une petite parenthèse, oui. On appelle ça le FOMO, the fear of missing out. Il y a des gens qui disent, il y a une file d'attente, ça doit être bon, on va aller faire la file.
Ben, justement, vous en avez dévoilé un petit peu.
Ah, je suis désolée!
Ben non, on est toujours intrigués, hein, nous. Alors, on fait la queue, ben, pour n'importe quoi. Ben, on parle de restaurants de pâtes, de boutiques éphémères, de nouvelles chaussures, des boutiques de chaussures sport. Et même, on fait la file d'attente pour les cabines téléphoniques rouges près du Big Ben, hein. Alors, ça, on parle toujours de Londres. Et puis, on a juste à penser ici les files d'attente devant les magasins d'électricité. Chronique le lendemain de Noël, il y en a des files d'attente. Alors, c'est pas quelque chose qui est commun. En général, ben, les files d'attente, c'est surtout pour manger, surtout. Peu importe la cuisine, ça nous dérange pas. Il y a le lieu, le prix, la liste des établissements pour lesquels il faut faire la queue pendant une heure pourrait-elle même s'étendre sur plusieurs hectomètres. On dirait justement ce que la journaliste rapporte, on dirait que la file d'attente n'est plus une corvée par laquelle il faut passer pour accéder au restaurant. Mais elle se pose la question, mais alors, comment fait-on une bonne file d'attente et pourquoi tout le monde s'y met? Hein? Alors, le site de Swiss Butter, le fameux restaurant où il y a la viande et ce restaurant d'origine libanaise, ben il y a aussi TikTok qui joue là-dessus et qui contient aussi des centaines de vidéos sur l'établissement Swiss Butter qui est consacré à la file d'attente. Et ce site-là, TikTok, chronomètre combien de temps il faut pour entrer. Alors, les influenceurs font venir les gens en masse et cette affluence fournit du grain supplémentaire, justement, au moulin à contenu. Et si on a une file d'attente, ben justement, devant son resto, ben, puis que les influenceurs et TikTok font de la publicité, ben donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans le coup et que c'est un lieu où il faut être vu. En plus. Puis il paraît que donc le Royaume-Uni est un pays de champions de la file d'attente. Les Britanniques sont réputés pour faire la queue de façon imperturbable et ordonnée, hein, avec l'étiquette britannique. Cette image a été fabriquée surtout pendant la Seconde Guerre mondiale par un gouvernement qui craignait que le rationnement ne provoque le chaos. Vous savez, les fameuses cartes de rationnement, là, on faisait des files. Ouais. Donc, ça a commencé là, mais on parle aussi que ça a débuté au début du siècle avec la révolution industrielle et l'arrivée de gens à la ville, nombre croissant de population. Et donc, la ville la plus peuplée et la plus dense du pays, c'est Londres, a peut-être été toujours la mecque de la file d'attente. On fait justement la file pas seulement devant les restaurants, mais aussi pour prendre le métro, pour acheter des places de théâtre de dernière minute ou encore pour aller à la piscine quand il fait chaud. Moi, je me souviens avoir pris le métro, puis je veux dire qu'il bourre ça un métro, puis t'as la porte collée dans le nez, là. Donc, il y a des files partout. La file, on parle aussi du fameux tournoi de tennis Wimbledon, la file d'attente. Certains arrivent dès 4 heures du matin. Ils vont patienter pendant des heures pour obtenir un billet. Ça grandit d'ailleurs en taille aussi avec la renommée à chaque année. Elle comporte cette file, même des stands pour acheter de quoi manger et aller aux toilettes. Elle est aussi réputée, cette file-là. Il y a le bon côté de la file, c'est que c'est un moment convivial dans certains cas, dans ce cas-ci, à Wimbledon, où les gens discutent les uns avec les autres et ils font des pique-niques sur l'herbe et s'amusent en même temps. On pense aussi peut-être au football américain où il y a les fameux pick-up dans le stationnement. Ils se font des barbecues en attendant justement le match de foot. Il y a une autre file d'attente qui est la plus importante de la capitale. Puis c'est sans aucun doute, et ça va rappeler certains, peut-être éventuellement des souvenirs, celle formée en 2022 par les personnes qui souhaitaient se recueillir devant la dépouille mortelle de la reine Élisabeth II. Et le fait qu'elle ait été simplement surnommée la queue témoigne de son emprise sur l'imagination culturelle. Et cette fameuse file d'attente-là, elle a atteint jusqu'à 16 kilomètres au point de devenir un spectacle pour les Londoniens. C'est pour vous dire que ça peut être très, très populaire. On veut comprendre aussi cette explosion de files d'attente à Londres. Et il faut regarder du côté de Dish Home. C'est une chaîne de restaurants indiens de prix moyen qui a ouvert à Covent Garden en 2010. La queue fait vraiment partie intégrante de la tradition Dish Home et c'est pratiquement impossible de lire un article sur ces établissements sans y trouver des allusions à la file d'attente. Alors, on mentionne qu'il y a des files d'attente, donc ça veut dire que ça doit être bon, pas à peu près. Et si la file d'attente, justement, est le meilleur moyen de créer un buzz sur son restaurant, ce fameux restaurant indien, une question se pose. N'y aurait-il pas quelqu'un qui les fabriquerait de toute façon, de toute pièce, ces fameuses files d'attente-là? Il n'y a pas grand monde qui était prêt ou qui avait une réponse particulière, mais il y a la journaliste a rencontré une responsable de la restauration dans l'une des plus grosses agences de communication de Londres et elle lui a confié que la file d'attente figurait souvent en tête de la liste des demandes des établissements dans leur publicité. Alors, on pourrait dire qui pourrait finalement l'y blâmer. Alors, c'est monté en épingle aussi par les influenceurs dont je parlais un peu plus tôt, dont il y a le toujours enthousiaste, on mentionne dans l'article, Top Jaw, qui a 955 000 followers sur Instagram. Il y a aussi Eating with Todd qui attire 2 millions de followers sur Instagram. Alors, la publicité, la file d'attente est une publicité en soi et c'est aussi un certificat de qualité, d'authenticité et d'exclusivité qui attire les passants parce qu'on est de nature curieuse aussi. Cependant, avec le hype viennent les problèmes. On discute ici avec monsieur Jack, qui est fondateur de Café Mondo. C'est une boutique de sandwich emportée qui est située dans le sud-est de Londres. Il faut être rapide. Ça, c'est un autre côté. Il faut être rapide en plus. Il y a une longue file d'attente. Les gens comptent récupérer leurs commandes en une dizaine de minutes. Ça ne doit pas être évident, surtout quand son commerce, qui avait à l'époque 2 mois seulement, est apparu dans le Top Jaw là, en janvier 2025. Il s'attendait à avoir plus de monde qu'avant, mais la réaction a dépassé tout ce qu'il pouvait imaginer. Le lendemain, presque tout de suite, ça a été le chaos. Et à ce moment-là, il a dû prendre pour gérer la file un genre de videur, un bonster à la porte. Et puis, il fallait aussi qu'il soit rapide pour livrer la commande. Du côté des pâtisseries, il y a les boulangeries aussi où on va s'approvisionner. Là, il y a des files d'attente. Il n'y a pas de siège à l'intérieur de la boulangerie de celle de Rebecca et Oliver. La file d'attente est la plus longue qu'ils aient eue. Faisait environ 1h10. Et une chose qui était évidente dans ce genre de phénomène, c'est que les files d'attente les plus extrêmes touchent les boulangeries. Peut-être parce que justement, c'est facile de rendre une pâtisserie appétissante à l'écran et que le prix est bien plus bas que celui qu'on pourrait afficher ou qu'on pourrait avoir dans un restaurant. Puis tout le monde ne peut pas faire la queue. Les personnes, on pense aussi aux personnes comme les enfants qui ne peuvent pas faire la queue. On pense aussi aux personnes handicapées qui, des fois, selon leur handicap, c'est plus difficile pour eux de faire la queue. La file d'attente présente cependant un côté positif. C'est aussi un moment collectif rare qui réunit les gens autour d'un intérêt qui n'a rien à voir avec la boisson. On parle ici de nourriture. Donc, C'est une heure aussi où la ville qui est de plus en plus connectée, où les gens vont connaître, se connaissent rarement. On parlait récemment, on se parle de moins en moins. Dans une file d'attente, on peut rendre le tout agréable et puis on a quelque chose en commun qui est la bouffe et ce qu'on veut aller acheter. Et puis Rebecca, celle qui est propriétaire de la boulangerie, elle dit toujours qu'elle, ça la fait toujours rire de voir des gens qui rencontrent leurs amis dans la queue. La fameuse file d'attente, c'est l'occasion rêvée de rencontrer des amis. Donc, c'est vous dire que la file d'attente, entre autres, c'est en Grande-Bretagne, c'est l'endroit où c'est réputé pour les files d'attente. Mais là, je vous amène un petit peu ailleurs parce qu'il y a d'autres files d'attente ailleurs et des façons d'être. En Espagne, entre autres, on dit qu'il n'y a aucune file d'attente qui est vraiment formée. Quand un Espagnol arrive à un endroit où des gens attendent, il va crier « Qui est le dernier ?» Et là, il attend tranquillement jusqu'à ce que cette personne soit servie, sachant que c'est lui ou elle qui sera le suivant. En Inde, ben là, c'est une autre histoire. Attendre en file est plus stressant que partout ailleurs parce que l'espace entre les gens qui font la queue est quasi inexistant. Pour y être allé, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Alors, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un nous souffle dans le derrière du cou, hein, qui respire dans notre cou parce que tout le monde est entassé. Et puis, pour l'avoir vu aussi, c'est les Chinois, ben eux, ils sont pas réputés pour leur conduite exemplaire lorsqu'ils attendent. Au contraire, je l'ai déjà vu, eux autres, ils veulent bypasser, ils veulent passer à côté puis tasser le monde puis se faire une place. Je me suis déjà obstinée avec certains. Alors, faut être vraiment bon en Chine pour être patient, parce que les autres, les files d'attente, ça, c'est pas vraiment leur fort. Et puis, ben pourquoi que c'est quoi l'importance dans la vie de tous les jours? Parce qu'on a même une théorie de la file d'attente. Cette théorie de la file d'attente est aussi appliquée à d'autres niveaux, au niveau de la gestion du trafic urbain et aux urgences dans les hôpitaux. Puis c'est ça, cette théorie de la file d'attente, elle sert à améliorer nos vies, puis à réduire nos attentes inutiles et à offrir des services en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Il n'y a pas juste du négatif dans la file d'attente.
Ben, écoute, on attend parfois 12 heures à 13 heures à l'hôpital. Disons que on se plaindra pas trop s'il faut attendre 15, 20, 30 minutes pour acheter. Entre autres, je vais vous parler, moi, des petits cupcakes, hein, des petits gâteaux.
Oui.
Magnolia, la pâtisserie la plus reconnue à New York. Et moi, je me rappelle d'être allé là il y a plusieurs années, parce que ça fait longtemps, là. Et on avait attendu une heure pour acheter des petits gâteaux. Faut le faire.
Faut le faire. Et est-ce qu'il était bon?
Oui, il était excellent.
Bon.
Ben, gros merci, Daniel. On fera pas la file, hein, tu vois. On fera pas la file pour aller à la prochaine chronique après la pause. Merci beaucoup d'avoir été là, toi.
Au revoir.
Et puis oui, donc Louis Bernis après la pause. Et on va parler aussi du festival de art souterrain avec son fondateur et directeur. Alors, tout après la pause, mais entre-temps, ben, si vous sortez ce matin, vous avez besoin d'un parapluie pas mal partout au pays.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Sommes-nous maîtres de notre destin? Suivre son instinct, ça j'y crois bien. Et si je ne t'avais pas tendu la main, m'aurais-tu rejoint? Ça j'en sais rien. Et si j'avais choisi la gauche, qu'est-ce que ma vie serait? Qu'est-ce que la tienne serait? Et si je n'étais jamais venue, qu'est-ce qui te remplacerait? Ça je le saurais jamais. Et si on peut bien se demander si je m'étais retournée? Et si on peut bien se demander tout ce qui aurait changé? Et si quel sera mon chemin?
Billy DuPage ou Billy DuPage,
oui.
Ici.
Ici, oui, ici, il faisait beau. Écoutez, on va pas passer notre temps à se plaindre qu'il y a de la pluie. Il faut quand même penser que de la pluie, c'est bon pour les jardins. Mais pour ceux où il y a des risques d'inondation, là, ça, c'est peut-être pas toujours intéressant. Mais bon, on va vivre avec. Et là, on s'en va vers une voiture qui aurait pu révolutionner notre avenir énergétique. Une auto qui aurait pu aller d'un bout à l'autre des États-Unis en un seul remplissage, un seul plein.
Oui, sans s'arrêter une seule fois à la station essence. Peut-être qu'elle va revenir. En tout cas, elle sort du passé.
Moi, il aurait fallu que j'arrête, peut-être pas pour faire le plein, pour faire le vide. Mais
oui,
ça, c'est autre chose.
Ça peut arriver. Ouais. La voiture en question, en tout cas, a un design très étrange. On la croirait sortie d'un film de science-fiction ou d'un jeu vidéo fantaisiste. Elle était posée sur trois roues, le fuselage tout en longueur, tel un dragster avec un aileron profilé à l'arrière. C'était la Subaru X100. Elle ne ressemblait à aucune autre voiture. Elle avait des allures en fait d'avion miniature et elle est restée à l'état de prototype. Mais avant de finir sous les projecteurs des musées, elle aurait pu réaliser une prouesse technologique révolutionnaire et qui peut-être même serait utile aujourd'hui, traverser tous les États-Unis effectivement d'est en ouest sans avoir besoin de faire un seul plein d'essence. Tout ça remonte au choc pétrolier de 1973, qui est à l'origine de cette audacieuse entreprise, et à l'inflation brutale qu'avaient connu les prix du carburant, les pénuries, et effectivement dans certaines stations-service qui étaient à sec, au point que plusieurs États américains avaient été rationnés à l'époque. Dans ce contexte tendu donc, pour les automobilistes, un styliste automobile du nom de Alex Tremoulis a imaginé à l'époque, pour la filiale américaine de Subaru, un véhicule capable de rouler très loin en consommant peu de carburant. Il présente le projet au patron de la firme, Harvey Lam, avec un objectif clair, obtenir une consommation, tenez-vous bien, de 2,35 litres par tranche de 100 km, ce qui permettrait, grâce à un réservoir de 95 litres, de parcourir un peu plus de 4000 km sans faire un seul plein d'essence. Une belle opération marketing pour donner un coup de projecteur à ce modèle de sobriété qui était inédit à l'époque. La Subaru X100 ferait étalage de son endurance en reliant la Californie à la Floride, c'est ce qui était prévu dans le projet, d'une seule traite. Pour réaliser un pareil exploit, Alex Tremoulis part non pas d'une coque de voiture classique, mais il utilise comme base un ancien réservoir d'ailes d'avion, long et fuselé, adapté ensuite en carrosserie. Le véhicule se déplace sur trois roues, une directrice à l'avant et deux carénées à l'arrière, reliées au reste du fuselage par deux petites ailes latérales, très fines, élancées et aérodynamiques. La Subaru X100 ne peut accueillir qu'une seule personne dans son habitacle, recouvert par un petit cockpit à bulles transparent, donc vraiment un design très original et qui se fait remarquer sur la route. Un design futuriste, gracieux, mais pour atteindre ses objectifs, il faut aussi une mécanique de pointe. Tous les détails techniques, je vous les épargne peut-être un petit peu, mais retenez que le châssis, par exemple, ne pesait que 32 kg. Voilà, on a allégé au maximum la carrosserie pour permettre d'atteindre ces 2,35 litres par 100 km. La conception dure plusieurs années quand même, ça ne se fait pas en quelques semaines, si bien que le prototype n'est achevé qu'en août 1980, date à laquelle il est présenté au circuit d'Ontario Motor Speedway pour prouver son potentiel. Un réservoir d'essence spécial d'un gallon est installé et la voiture enchaîne les tours de piste à la vitesse maximale de 88 km/h jusqu'à épuisement du carburant afin de tester son autonomie. L'équipage échoue à un demi-tour de son objectif de 160 km. La deuxième tentative est la bonne. La Subaru tombe en panne sèche après avoir franchi le seuil des 160 km. La voilà prête à être équipée avec un réservoir plus gros de 95 litres pour effectuer toute la traversée des États-Unis. Mais c'est là que le projet s'arrête, malheureusement. En effet, on n'est plus en 1973 à l'époque. La crise pétrolière est assez loin. Subaru est bien implanté dans le pays. Aux États-Unis, n'a plus besoin de cette promotion hors norme. Et donc, eh bien, le prototype est un peu oublié dans un entrepôt de la filiale américaine de Subaru. Il est sorti du garage bien plus tard, en 2018 seulement, prêté au Lane Motor Museum de Nashville, dans une exposition consacrée aux 50 ans de Subaru aux États-Unis. Et reste le témoin d'une idée innovante en pleine crise pétrolière qui peut-être va ressurgir dans les semaines et mois qui viennent si la situation continue telle qu'elle est.
Louis, je dois dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise pétrolière, parce qu'on en a vécu quelques-unes quand même, elles n'ont peut-être pas duré aussi longtemps l'une ou l'autre, il faut vraiment changer notre façon de faire. Puis, le prix du pétrole rebaisse, puis on oublie tout ça.
On revient aux bonnes
habitudes. On revient aux bonnes vieilles habitudes, voilà. Et puis, deuxièmement, on a un autre sujet intéressant.
Oui, sur la natalité.
La natalité. Ah, c'est très d'actualité, ça.
Oui, on part en Lituanie, petit pays d'Europe, proche de la Russie et de la mer Baltique. La Lituanie qui cherche des solutions pour relancer sa natalité. En 5 ans, le nombre de naissances de ce pays a reculé, passant de 19 000 en 2024 à 17 500 en 2025, en baissant graduellement chaque année. Et donc, eh bien, les autorités sont un peu inquiètes. Parmi les propositions, le gouvernement explore une piste étonnante, relancer les discothèques traditionnelles pour aider les couples à se former, tout simplement. Pour le président Gitanas Nauseda, la baisse de la natalité est à prendre très au sérieux. Il considère comme une menace nationale ce problème. Cette diminution des naissances pourrait notamment s'expliquer par la priorité donnée par les jeunes à leur carrière, l'instabilité financière ou la précarité de l'emploi. Pour stimuler les naissances, le gouvernement avance plusieurs mesures. Il y en a quand même des sérieuses pour commencer. Ils ne vont pas seulement mettre l'accent sur les discothèques, les boîtes de nuit. Ils ont envisagé, par exemple, de supprimer l'impôt sur le revenu pour les parents de 2 enfants ou plus. Ça peut permettre de faire des économies, effectivement. Ça peut être assez attractif. Proposer également des allègements fiscaux pour les entreprises qui embauchent des parents de familles nombreuses. Ils ont également annoncé déjà qu'à partir du mois de juin, la prime de naissance passerait à 1 036 €, à peu près 1 600 $ canadiens. Mais il y a aussi d'autres propositions un peu plus insolites, comme par exemple la création d'un prix pour récompenser la commune la plus favorable aux familles dans le pays. Voilà, vous avez un concours. Une ministre a également suggéré l'organisation de soirées dansantes organisées par le gouvernement pour favoriser les rencontres entre jeunes, avançant qu'ils rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver des partenaires. Cette renaissance des discothèques s'inspire d'une tradition conservée par les seniors qui prennent plaisir, selon elle, à fréquenter les bals dansants dans les villages ou les petites villes. Cela peut paraître une plaisanterie, mais c'est un problème assez sérieux, a-t-elle confié. Il faut relativiser en terminant ce sujet. Selon certains économistes, la situation est moins grave qu'il n'y paraît. Ils sont moins alarmistes que le président. La croissance économique et l'amélioration des flux migratoires compenseraient en partie le déclin des naissances, selon certaines études. Selon eux, de plus en plus de personnes viennent quand même en Lituanie, y compris des citoyens qui avaient quitté le pays il y a 10 ans, ainsi que des étrangers. Voilà, en tout cas, peut-être qu'il y aura quand même plus de soirées dansantes dans les mois qui viennent en Lituanie.
Ouais, et puis les rencontres vont peut-être se faire dans la file d'attente.
Exactement,
pour
entrer
au bar. Merci beaucoup, Louis de Bernis.
Avec plaisir. Thank you.
se ferme, une autre s'ouvre à lumière. L'avenir se dessine rempli de mystères. Les clés sont en nous. Suffit de chercher à travers les échecs. La réussite est cachée. Les opportunités naissent des centres du passé. Mille portes étaient fermées. Mille autres sont ouvertes à jamais. Chaque pas nous rapproche de notre destinée. Les portes s'ouvrent en grand. L'horizon est éclairé. Porte à franchir. De rêves à réaliser.
Je vis pour le moment, en travaillant la sueur au front, en attendant que je pète la forme et me perds des sous en performant. Je me stresse pas, à les tracas, je me colle pas, oh je ne sais pas. Bah ça pas, mes efforts vont me récompenser en attendant. J'investis, en attendant, oui je dépense, je prends de l'avance, c'est plus comme avant. Le même radical avec un autre élan. Sommet excellent, ici ban et salou, avec un bacon du bon au niveau que voilà. Sommet excellent, ici ban et salou, avec un bacon du bon au niveau que
C'était Soul of Zoo, je vis pour le moment avec Al Radic.
Il y a des études qui démontrent que ça a l'air qu'on donne à peu près 4 secondes hein, qu'on accorde à une œuvre d'art avant de passer à la suivante. C'est, dis-moi, ce que dit le communiqué du Festival Art Souterrain de Montréal. Pour sa 18e édition, bien, le festival décide de briser ce rythme effréné jusqu'au 10 mai. Le réseau piétonnier de Montréal se transforme en un laboratoire de la dualité. Pour nous guider à travers ce parcours entre ombre et lumière organique et technologique, nous recevons le directeur et fondateur de, du Festival Montréal Art Souterrain, Frédéric Loury. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour, bon matin.
Merci. Alors le thème du festival, là, je viens de le dire, on parle de dualité, ombre et lumière, réel, virtuel, organique, artificiel. Dans un environnement comme celui du Montréal souterrain, qui est par définition un lieu de passage rapide et fonctionnel, comment on peut amener ce thème à aider, à faire ralentir les passants et à s'engager avec l'art?
Ah oui, c'est tout un défi. En fait, chaque année, depuis 18 ans, en effet, on est dans le réseau souterrain. Une des raisons pour laquelle on est dans ces différents passages, c'est parce que, en fait, le ralentissement se fait à différents moments de la journée. Alors c'est sûr que le matin, c'est pas le meilleur moment pour capter l'attention des personnes qui circulent dans ces lieux parce qu'ils sont dans une dynamique de travail. Par contre, le midi, comme la fin de journée, les gens sont beaucoup plus captifs, intéressés et curieux à participer autant à des activités qui sont déployées gratuitement sur place que à découvrir des projets, des œuvres d'artistes d'ici et aussi d'ailleurs et qui sont dans leurs espaces habituels de d'écosystèmes de travail. Donc on a vraiment ce grand défi, mais on finit par y arriver parce qu'on a ce qu'on appelle des médiatrices qui sont là pour informer les gens et qui viennent à leur rencontre pour décrypter les œuvres et leur permettre de comprendre un petit peu plus le sens de chacune d'entre elles.
OK. On remarque, par contre, ce n'est quand même, il me semble qu'il y a un nombre record d'œuvres participatives, on va vers l'interactivité. C'est une réponse donc à cette fameuse statistique là, des 4 secondes d'attention dont on a parlé tout à l'heure?
Oui, alors on essaye, c'est sûr, chaque année de rendre les gens, de les intéresser, d'éviter toute forme, on va dire, de dédain ou d'ignorance, par une participation physique des individus. Et pour ce faire, on a des œuvres qui sont conçues pour la participation. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez l'œuvre de l'artiste québécoise Fanny Giguère, qui est une balançoire. Et en s'installant sur la balançoire, on actionne un dispositif qui fait fonctionner des images qui sont diffusées sur écran. Et donc, on est un peu dans cette dynamique entre ciel et terre. Il y a aussi, pour vous donner un autre exemple, une œuvre de Gilles Tarabiscuité, qui ressemble un peu dans son format à un conteneur. L'extérieur est en bois, qui me font penser à ces grandes boîtes de transport qui notamment protègent des œuvres d'art. Et à l'intérieur, c'est la reproduction de sa cuisine, mais dans les années 70, et qui est de couleur jaune monochrome. Donc les gens rentrent à l'intérieur, on leur prête un casque de réalité virtuelle qui leur permet de faire un bond dans le passé et de se retrouver dans les années 70 avec l'ensemble des artefacts. Ça peut être autant une bière, un paquet de cigarettes, que les Canadiens qui jouent sur un écran, et c'est un match qui se déroule dans les années 70, aussi bien que à travers une fenêtre, il y a la vie de différents individus dans une ruelle. Donc on joue beaucoup sur la spatialité, sur le physique, sur l'inclusion des gens dans une dynamique d'attraction, de plaisir et de compréhension.
Alors, on voit donc deux œuvres que vous venez de nous présenter, deux œuvres qui jouent sur le contraste, hein, entre le réel et le virtuel. J'ai l'impression qu'on n'essaie pas un peu de mettre au défi les gens, le public, là, à voir ces deux mondes, à se confronter à ces deux mondes-là simultanément?
En fait, on est naturellement confronté à ces univers parce que beaucoup d'individus réveillent, consultent leur téléphone, vont chercher l'information, l'actualité à travers les médias, via différentes applications. Donc, on est habitué à être dans cette forme de dualité entre le physique et le numérique. Et en fait, nous, on est là pour le questionner, pour aussi amener les personnes à cohabiter, à rentrer en relation entre elles, parce que c'est sûr que plus on est dans cette distanciation humaine qui se fait par le biais technologique, un peu aussi comme les applications de rencontres ou des différents jeux qui sont proposés, ça peut nous déconnecter des humains, des communautés, d'un rapport qui est tissé par de la communication orale. Et donc, beaucoup d'œuvres sont là pour nous rappeler le sens même de notre lien qui a débuté plusieurs millions d'années, et de revenir à cet état de proximité, mais à travers des œuvres qui sont là pour nous amener à un questionnement.
Je vois aussi qu'on fait comme ce que je comprends plutôt, c'est qu'on essaie de... On a orchestré une rencontre, hein, entre la fragilité du vivant et la froideur de nos technologies. Comment vous avez réussi à orchestrer ça? Parce que c'est quand même deux façons de voir le monde. Et vous avez des œuvres, je pense, les créatures mécatroniques là, de Sylvie Michaud, et le cocon de bois, là, d'Adi Jamali.
Oui, alors, c'est hyper intéressant parce que Sylvie Michaud, qui vit à Sherbrooke, a mis en place une œuvre, ce qu'on appelle, c'est un peu comme une grande sculpture interactive. Et plus on rentre à proximité avec la sculpture, plus ça, les oiseaux, qui sont tous produits individuellement à la main, ont ce côté complètement unique et vulnérable. Ils sont faits en papier blanc, qui rappelle aussi le linceul, la mort, mais aussi le côté sacré de la vie. Et on voit, plus on regarde individuellement ces oiseaux qui battent leurs ailes, mais à des rythmes différents sous notre tête, plus on se rend compte en fait de la fragilité de l'existence, de nos écosystèmes, de voir que il y a rien d'identique. Quand on regarde par exemple un écureuil dans notre cour, on se rend bien compte qu'il y a chacun d'entre eux ont des particularités. Et donc c'est un peu ça, c'est de célébrer le vivant par le biais de petits mécanismes qui montrent toute la fragilité du monde. Et Adi Jamali, qui est d'origine iranienne, a reconstitué un peu cette c'est une immense structure qui est assez monumentale, dans laquelle on pénètre. Et dans cet espace, qui est en fait une célébration aussi au vivant par cette reconstitution de la forme d'un utérus qu'on retrouve chez tous les mammifères. On voit ces grandes parois et on se retrouve finalement dans un cocon. Mmh. Et il y a une bande sonore, donc c'est vraiment un espace quadriphonique qui diffuse un peu de son qui nous rappelle le premier son du bébé qui est mis au monde. Et donc c'est très harmonieux. Et donc ça a été la création d'une composition sonore pour nous ramener à l'état du vivant, mais aussi nous montrer que tout découle justement de cet utérus, de ce système de vie. On prend pour acquis chaque jour de notre vie notre place sur Terre, mais on en oublie un peu les origines, et on oublie aussi que chaque mise à bas, chaque naissance vient avec ses incertitudes, ses dangers. Et donc, ces artistes-là sont là pour montrer les contrastes de cette fragilité de vie.
Il y a un projet comme celui de Gabriel Mondor. C'est des peintures qui sont destinées à la destruction. J'ai comme l'impression qu'on est comme à l'opposé de la consommation de masse. Je me demande à quelle place occupe la notion de mémoire et d'immatérialité dans la vision donc de cette édition.
Oui, alors Gabriel Mondor, c'est un peu notre plus jeune artiste de la programmation, qui a été composé par notre commissaire Ariane Plante. Gabriel, il a créé en fait tout un processus artistique autour de la perception, parce que chaque être humain, quand il est face à une œuvre, a une façon bien à lui de la décrire, de aussi la vivre, de la communiquer. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité les gens via un appel à acquérir une œuvre. Donc, chaque œuvre était vendue $50, qui couvrait à peine les matériaux de cette œuvre-là. On parle de 50 peintures qui ont été réalisées. Toutes les œuvres ont été acquises, mais il y avait une condition à ça. C'est quand la personne achetait l'œuvre, il fallait qu'elle accepte qu'elle soit détruite. Et en revanche, la destruction passait, donc l'artiste arrivait avec son dispositif chez l'acheteur ou l'acheteuse, et avec un système qui permettait de mettre la peinture dans un endroit sécuritaire et clos, il y mettait le feu et l'œuvre se consumait graduellement et rentrait en relation et en conversation avec la personne qui en était le propriétaire, pour ensuite le faire parler et lui demander comment elle voit l'œuvre, comment elle la décrit, Qu'est-ce qu'elle voit de l'œuvre. Et donc, il a fait des enregistrements de l'ensemble de ces témoignages. Et donc, le résultat, c'est de voir un peu, ça prend la forme d'un monolithe, qui est placé d'ailleurs dans notre espace d'accueil, Place Ville-Marie. on est face à un grand monolithe avec des images qui permutent, qui sont des vidéos de des cendres de ces peintures brûlées. Et il y a quatre casques d'écoute, et chaque casque, c'est une narration, c'est une personne qui décrit sa relation avec l'œuvre, ce qu'elle voit, ce qu'elle a vécu. Et donc, c'est assez bouleversant. Ça peut être assez cocasse, ça peut être aussi très drôle, parce que ce sont des personnes, on va dire, tout à fait normales et ordinaires qui parlent d'art avec leurs propres mots, sans qu'il y ait des codes. Et donc, c'est une façon vraiment de montrer, en fait, toute la force de la démocratisation de l'art.
On va d'abord s'arrêter là-dessus. Frédéric Loury, directeur et fondateur du Festival Art Souterrain à Montréal. Ça se déroule donc jusqu'au 10 mai dans les entrailles, qu'on dit, du centre-ville de Montréal. C'est un parcours de 33 kilomètres, le souterrain de Montréal. C'est quand même quelque chose, hein, ces passages-là. Merci beaucoup, Frédéric Loury.
Merci de l'invitation.
Merci. Et nous, après la pause, on va parler du défi AlterGo avec Dominique Tremblay, et on va terminer l'émission avec une entrevue avec Lyraël Dauphin pour son texte « Tombé de moi » qui est au jamais lu. Et je vous rappelle donc aujourd'hui, il y a de la pluie ce matin. Puis pour la région de Montréal, ailleurs, il y a de la pluie presque toute la journée. Alors, mais c'est plus chaud. Bon, on sort le parapluie.
Vous écoutez « Au quotidien » avec Denis-Martin Chabot.
Je sais pas pourquoi elle est tout le temps rapide me voir, moi je suis tout le temps triste et je peux pas faire autrement. Je sais pas comment je dis ma peine, peut-être j'ai besoin que tu la prennes. Avec la tienne, je sais pas comment tu fais, t'es vraiment surprenante. Oh. Je sais même pas si je t'ai déjà vu blesser. Oh. Mais pourtant tu portes ma peine encore. Dis-moi comment je peux apaiser. Je veux jamais que tu finisses blessé. Je crois bien que c'est à moi d'encaisser. Pourquoi elle est tout le temps rapide me voir, moi je suis tout le temps triste et je peux pas faire autrement. Je sais pas comment je t'ai mal fait, peut-être j'ai besoin que tu la prennes. Avec la tienne, je sais pas comment tu fais, t'es vraiment surprenante. Oh. Quand tu m'as dit appelle-moi, je t'ai bien dit faut tenir ma vie. Sinon moi ils ont pire ma vie. J'ai même pas ce qu'on perd, ah ouais. Être sans toi ou bien perdre la vie. Pour pas te perdre, tu mets toute la mise. Tu m'as fait tourner toute la nuit. Et j'ai même pas fait gaffe au soleil. Avec elle, je rêve, j'ai même plus sommeil. Tu vois mieux avec elle, pas ma soeur. C'est ma life, je veux pas ma soeur. Et je veux qu'elle reste avec moi toute ma life. Je veux qu'elle reste avec moi toute ma life. Je veux qu'elle reste avec moi toute ma life. Je veux qu'elle reste avec moi toute ma life.
Toute ma life, une chanson de Hello.
On va rejoindre maintenant Dominique Tremblay pour parler de ce défi AlterGo qui a pris fin donc en fin de semaine. Allô, Dominique?
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, belle fin de semaine, belle compétition. Je sais comme t'aimes beaucoup. Alors, on peut commencer par parler de la compétition de Boccia?
Oui, c'est ça. La compétition s'est terminée hier en fin de journée avec la clôture de la 43e édition du défi sportif. La compétition internationale de Boccia, plus précisément la Coupe du monde, il y avait 81 athlètes de 21 pays qui étaient représentés. On a vu des très belles performances. C'est le Japon et la Corée qui ont dominé le classement des médailles avec 7 médailles chacun pour les deux pays. Et un total quand même assez impressionnant de 14 pays qui ont remporté des médailles. Une bonne distribution là, de tout le monde a quand même assez bien performé. On peut souligner les belles surprises des pays comme le Mexique et le Pérou qui ont gagné des médailles d'or. C'était assez bien. Puis aussi le Chili qui a peut-être gagné la première médaille d'argent en Coupe du Monde. Donc, ça augure bien pour le reste de la saison puisque c'était la première compétition internationale de boccia en 2026 avec le championnat du monde qui aura lieu au mois de septembre en Corée.
OK. Et là, il y avait une autre compétition, en fait, compétition, en fait, le Canada qui a participé dans plusieurs compétitions, je cherche mes mots ce matin. Puis on a eu une bonne performance,
Oui, bien, il y avait des athlètes canadiens qui participaient à cette compétition de boccia. Ça a bien été pour les Canadiens, mais on aurait espéré gagner quelques médailles. En individuel, les meilleurs résultats là, ont été réussis par Marco Di Spaltro, Yann Chibanou et Alexandre Lemaire qui se sont éliminés en quart de finale dans les compétitions individuelles. Il y avait aussi le Canada qui était représenté en double BC4 et en double BC3. Petite surprise là, pour le double BC4 de Allison Levine et Julian Chibanou qui n'ont pas réussi à passer à la demi-finale, mais une bonne performance de Alexandre Lemaire et Fatima Aberdaki qui en étaient à leur première compétition au niveau senior, n'ont pas réussi de gagner le match, mais ont quand même bien performé. Donc, ça augure bien pour eux là pour le futur. Alison Levine, oui, qui a eu une petite compétition un petit peu difficile, a quand même bien apprécié son expérience et elle était la porte-parole du défi sportif et on a récupéré un petit bout d'entrevue avec elle.
On écoute ça.
Bien, normalement, quand j'ai une compétition où on n'a pas les résultats qu'on veut, je veux oublier complètement de cette compétition. Cette fois-là, non, je ne veux pas l'oublier. Quand même, l'expérience était très agréable. J'étais fière d'être ambassadrice, d'être là avec certains membres de ma famille, des amis qui sont venus me voir, d'être chez nous. Alors, je dirais pas que c'est pas une compétition qui va être dans mon boîte à oublier ça. Quand même, tous les posters vont me rappeler. Mais non, c'était une bonne semaine malgré les résultats. Je vois, c'est une compétition qui est vraiment centrée sur les athlètes, les choses qui nous affectent le plus, les athlètes. Chaque année, il est comme si on fait un commentaire, je trouve que c'est impliqué les prochaines années. Alors, je suis très fière de présenter, d'être comme un... de montrer, ça c'est ma ville, ça c'est les compétitions qu'on fasse. Voici le défi sportif Entre Go, bienvenue à Montréal. Amuse-toi. Je sais que c'est eux, à cause de leur valeur, d'avoir ça fait pour nous. C'est incroyable. Puis je dis vraiment, vraiment merci. Puis c'est pas juste les Canadiens qui voient les différences. On a les feedbacks des autres pays, des autres personnes qui disent hey, « ça là, ça, vraiment, ça doit être le standard. Ça marche bien. On aime ça venir à Montréal. » Si c'était quelques jeunes qui, c'était leur premier défi, peut-être c'était leur première expérience d'une atmosphère sportive, je deviens un peu émotif de voir la future de parasport tellement beaucoup dans notre province. Puis, ouais, c'est quand même impressionnant.
C'était Alison Levine. Petit problème, là, écoutez. En fait, là, je vais quand même être transparent. J'ai les questions à poser à Dominique. Puis tout à l'heure, j'ai accroché la souris de mon ordinateur et là, je ne retrouvais pas les questions. Puis là, ma mémoire a flashé. Alors, Dominique, je m'excuse pour ça tout à l'heure. Donc, c'était Alison Levine qui est la porte-parole du défi Alter Go pour le Canada. Ce défi sportif, là, c'est pas juste une compétition de boccia, il y en a plein d'autres, là.
Bien, c'est ce que je veux dire, c'est que le boccia, c'est très important pour le défi sportif. C'est pas juste une compétition internationale, c'est aussi une compétition. C'est un festival là, de 12 jours de boccia qui a commencé vendredi de la semaine passée avec une compétition scolaire, il y avait une trentaine d'athlètes de moins de 18 ans qui participaient à la compétition. Il y a aussi une compétition nationale qui a eu lieu le vendredi, samedi, dimanche, la fin de semaine passée, et cette semaine, pendant 7 jours, il y a eu la compétition internationale. Donc, on voit le spectrum de l'évolution de l'athlète durant le défi sportif. C'est très intéressant. Il y a plusieurs membres de l'équipe nationale du Canada qui sont originaires du Québec qui ont fait les 3 étapes de compétition défi sportif. Et on parle quand même d'une longue période d'amour entre le boccia et le défi sportif. C'était la 20e année que le défi sportif accueillait des pays lors de la compétition. Donc, ça n'a pas toujours été des Coupes du Monde, mais ça fait quand même donc quand même 20 ans là, qu'on vient nous visiter pour jouer au boccia. Et Maxime Gagnon du défi sportif était quand même assez fier là, de la participation et il voudrait bien que ça continue. On écoute ce qu'il nous a raconté.
C'est un honneur. C'est une des compétitions majeures auxquelles on accueille le plus de pays. Puis on espère que dans les prochaines années, la confiance va toujours être là de la Fédération internationale et d'accueillir de plus en plus de pays. On serait bien content de garder des standards toujours aussi élevés.
Alors, autre chose à ajouter, Dominique?
Ben, pour la compétition de boccia, ça va revenir l'année prochaine au moins. Donc, Maxime sera très content. Ça va être à la fin du mois d'avril, là, dans la première fin de semaine du défi sportif. Et donc, ça conclut pour moi cette semaine que je me suis promené un peu partout et parlé du défi sportif. Et ça a été très plaisant. Une belle édition qui s'est terminée hier.
Bon, je vais quand même terminer aussi en parlant au sportif que tu es. J'imagine que tu vas suivre maintenant la 2e série d'éliminatoires pour la Coupe Stanley avec le Canadien.
Mais évidemment, j'ai écouté le 7e match là, à la radio parce que je revenais de Montréal du défi sportif là, pour me retourner à la maison. Ça a été, ça a rendu mon périple à la maison beaucoup plus intéressant et ça risque d'être vraiment, vraiment une bonne 2e série entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo. Ça fait longtemps que Buffalo qui a pas gagné une ronde de série. Donc, en 2e ronde, ça va être une série très intéressante avec 2 jeunes équipes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Merci beaucoup, Dominique. Et puis, à la prochaine.
Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.
C'est parfois comme ça, il n'y a rien d'autre à dire. Je comptais les mois, je n'attendais que toi, que tu arrives. Comment décrire quand ce qu'on espère se doit de partir? Si je vivais dans un monde idéal, je t'aurais quitté avant que tu t'en ailles. Je cherche les phrases, mais j'ai du mal. Pour le moment, tout sonne faux. Tu t'en vas avec tous mes mots. Dans ma voix, il n'y a que ton écho. Combien de temps encore à me hanter? Le poème que j'ai ne peut pas terminer. T'es comme une rime qui ne fait que m'échapper. Combien de temps encore à me hanter? Combien de temps ça prend te retrouver? Et si c'est vrai qu'on n'a qu'une vie à vivre, aucun regret. Le court temps qu'on avait était parfait. Un jour, qui sait, peut-être que tu voudras me revenir. Si je vivais dans un monde idéal, je t'aurais quitté avant que tu t'en ailles. T'es parti en un moment éclair. J'ai gardé ta lumière dans la peau. Combien de temps encore à me hanter?
Marie-May et sa chanson « Combien de temps ?»
Vous avez pu voir Liriel Dauphin récemment dans la série « Empathie ». Je devrais dire l'excellente série « Empathie » dont on attend la deuxième saison. Semble-t-il que les tournages sont prévus à l'automne. Alors, cette série explore avec bienveillance et réalité de la santé mentale. Mais aujourd'hui, on reçoit Liriel pour nous présenter la mise en lecture de sa pièce qui s'appelle « Tomber de moi », présentée jeudi 7 mai à 20h dans le cadre du festival « Jamais lu » de Montréal. Bienvenue à l'émission au quotidien, Liriel.
Bonjour, merci.
On est très content de te recevoir. Alors, le texte suit un personnage qui s'appelle Raya, qui retourne à Repentigny pour chanter aux funérailles d'une amie d'enfance. En fait, de quoi parle-t-on le plus concrètement dans cette œuvre?
On parle du changement, de l'appréhension, de la peur. Raya, dans le fond, retourne dans son passé un peu, tu sais, qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle a quitté le secondaire, elle est partie au cégep, s'est installée à Montréal, après elle a eu une transition. Donc là, c'est vraiment le retour dans le passé avec, tu sais, c'est comme un peu basé sur des choses qui sont un peu vraies dans ma vie, à moi aussi.
Il y a un peu d'autofiction là-dedans, oui.
Ben oui, je viens de Repentigny-le Gardeur. Fait que c'est un peu comme une prise en otage parce que le réseau de transport de la Naudière est absolument terrible. À Repentigny-le Gardeur, c'est vraiment un cauchemar, l'Assomption, même chose. Fait que c'est un peu comme si elle était prise là-bas dans ces funérailles-là à être confrontée avec tous ces humains parce que ben il n'y a pas de bus pour rentrer à la maison, c'est dans longtemps. Fait que là, elle est comme prise à avoir des discussions qu'elle veut pas nécessairement avoir. Puis c'est beaucoup sur qu'est-ce qui se passe justement après le secondaire, puis pour une personne trans, mettons, qui s'est émancipée, qui est allée loin, qui était à Montréal, puis qui a autant de changements, puis qui a peut-être l'impression qu'elle a changé plus que tout le monde dans son passé. C'est un peu comme une réalisation que hey, finalement tout le monde change de des manières différentes, tu sais, mais que pas mal tout le monde change, parce qu'il y en a qui n'ont pas changé. Puis c'est aussi en parallèle avec comme la pression d'être une personne trans dans l'œil du public, d'être visible, toute la gestion de la haine en ligne et tout ça. Donc c'est comme une grosse allégorie de presque de l'enfer et du purgatoire au final.
Ben, c'est quand même très d'actualité, qu'on veuille ou pas, c'est quand même ça fait la une des journaux beaucoup, ces questions-là.
Ouais.
Peut-être pas toujours avec bienveillance, mais bon, ça, on n'y peut rien pour le moment.
Ben, on en parle dans la pièce, justement.
Je me sens bien qu'on n'en passerait pas à côté.
Oui.
Bon, je l'ai dit, mais en fait, je pense que tu l'as dit, c'est un peu autofictif, c'est quelque chose que tu as vécu, donc ça t'a inspiré.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que c'est le coin où j'ai grandi, puis il y a quelques années, j'ai eu à aller chanter dans des funérailles à Repentigny, puis j'étais tellement stressée que j'ai pas vraiment appris la chanson qu'on voulait que je chante. J'ai chanté une chanson que je connaissais déjà, j'ai un peu choqué, tu sais, puis parce que j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais vraiment peur de comment j'allais être reçue, de me faire mégenrer, de comment ça allait se passer, est-ce que j'allais être inconfortable, est-ce que les gens allaient être inconfortables avec moi. Puis finalement, j'ai tellement eu une expérience positive, puis j'ai réalisé que j'étais un peu ma propre ennemie là-dedans, dans l'appréhension, qui est comme super justifiée. Dans le sens où comme j'ai des expériences qui font que j'ai cette peur-là puis que je suis un peu hyper vigilante des fois, mais je me suis dit, tu sais, pourquoi pas présenter ce moment-là puis le transformer un peu puis le baser sur d'autres choses. C'est sur une amie du secondaire qui maintenant sort avec un gars qui m'intimidait au secondaire. J'étais comme, ah, et si c'était cette personne-là finalement, tu sais, puis qu'il y avait cette confrontation-là de comme, ah, je suis obligé de parler au gars qui m'intimidait parce que c'était c'est le chum de la fille qui est décédée. Puis tu sais, comme toutes ces situations-là un peu. Fait que ça, c'est la grosse fiction là-dedans. Mais sinon, ouais, c'est vraiment basé sur beaucoup d'expériences que j'ai vécues puis un peu une espèce de... m'offrir une espèce de pardon puis de discussion qui... très probablement n'arrivera jamais dans ma vie non plus.
Oui, mais en fait, de se pardonner soi-même, c'est déjà ça. Parce que pour beaucoup, beaucoup de personnes vivent de cette intimidation-là à l'école, pour toutes sortes de raisons. Dans le cas des personnes trans, quand même, c'est assez fort. Mais souvent, pardonner à l'autre personne, c'est pas ça qui est important, c'est pardonner à soi, dire « Oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû m'en faire avec ça », mais c'est pas évident, hein?
Et non, c'est pas évident. Puis aussi, tu sais, je suis une personne qui croit pas tant que le pardon soit nécessaire. Tu sais, je crois plus à la réparation. Je crois plus à que tant qu'on est à se dire « je m'excuse » puis accepter les excuses d'une personne, je pense pas que accepter les excuses sont nécessaires. Je pense que demander pardon, ça peut être nécessaire dans la croissance d'une personne.
Ouais.
Mais je pense pas que les excuses sont toujours nécessaires à accepter. Tu sais, je suis très d'accord avec le fait que je peux prendre tes excuses sans les accepter. Puis l'important, c'est surtout comment tu vas maintenant être avec moi. Tu sais, fait que c'est beaucoup ça la pièce aussi. C'est beaucoup comme « Hey, le passé, c'est passé. Ça sert à rien de s'excuser puis d'en parler pendant 1000 ans. Voyons comment, en ce moment, on peut être là pour toi. »
Tout à fait. On décrit le texte comme étant vif et hilarant. Puis je me dis « Mon Dieu, comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'humour dans des thèmes comme ça? »
Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a de l'humour, je te dirais, ou comme à la minute, là, c'est au pied carré, il y a de la joke. Là. C'est comme... Je suis reconnu, mettons, généralement, on parle de mon dialogue comme étant très bon, très réaliste et très, justement, humoristique. Donc, je réussis à trouver, je pense, l'humour dans toutes les situations. Puis, le malaise, l'inconfort, la tension créent beaucoup, je crois, de comédie, de situation, tu sais, au final. Puis, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup des dynamiques, mais comment les gens ont changé, comment les gens n'ont pas changé. On a tous ce rapport-là, un peu de comme, hey, le conventum, tu sais, retourner dans son passé, puis voir les gens qui ont pique au secondaire, les gens qu'au contraire sont devenus super cool, puis alternatifs. Tu sais, il y a comme, dans ce monde-là, je trouve qu'il y a tellement d'humour. Puis dans la mort aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'humour, puis ça nous aide souvent à intégrer la mort ou à faire la paix avec le deuil et tout ça. C'est de passer aussi dans ces zones-là d'humour, puis de rire de la lourdeur de la situation des fois, tu sais.
C'est une mise en lecture dirigée par Matteo Pino. Quel genre? Ben, là, on parle de mise en lecture, puis je pense que c'est important de faire la distinction. C'est pas une présentation théâtrale, mais on peut s'attendre à quoi?
Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, tu sais, c'est on n'a pas beaucoup... Le but du festival, c'est de montrer des pièces qui sont pas encore jouées, qui n'ont pas été encore lues. Donc, c'est un peu comme un terrain d'exploration pour les autrices, pour voir comment est-ce que le public reçoit ce que j'ai écrit pour souvent une autre étape d'écriture, tu sais. Donc, dans ce cas-là, c'est une lecture avec Lutrin, mais qui est dirigée. On a une vingtaine d'heures de répétition. Donc, il y a quand même des images qui sont créées, il y a quand même un peu de mise en scène, mais on est restreint, disons, par un Lutrin devant nous parfois, et avoir un texte qui est lu, qui n'est pas appris. Donc, c'est un peu plus frontal, mais ça laisse vraiment la langue s'exprimer davantage, on est moins comme camouflé dans une mise en scène et tout, donc c'est vraiment l'importance des mots qui ressort. Puis je te dirais que, tu sais, j'en ai vu plusieurs, puis c'est aussi, c'est pas ma première participation au festival, puis la plupart des gens en ressortent vraiment positifs, qui ont l'impression d'avoir vu une pièce de théâtre, même si au final c'est une lecture, parce que ben on a choisi des bons interprètes aussi, mettons.
Oui, puis il faut aussi savoir que Matteo Pino, je vais quand même le dire, c'est quand même connu, c'est une personne trans aussi,
oui.
Donc il y a une certaine sensibilité là à l'égard du texte que tu as produit.
Ah, évidemment, puis c'est un bon ami aussi, puis une personne extrêmement talentueuse, donc c'est avec grande confiance que je lui ai remis cette tâche.
Là, il nous reste du temps, là, puis ça me le tentait, je me dis, je sais pas si tu vas répondre à ça, mais t'es quand même, t'as joué dans cette série Empathie, là, qui est, comment est-ce que, je veux dire, comme les Français disent, qui est plébiscisée partout où elle a été jouée. Rôle absolument intéressant parce que c'est un rôle qui te ressemble, hein?
Oui, quand même, oui. C'est étonnant, je veux dire, comme l'écriture de Florence est tellement sensible et belle, puis je trouve que c'est un peu la meilleure représentation qu'on peut faire des personnes trans, c'est-à-dire une représentation qui n'est pas misérabiliste, puis qui est plutôt dans la lumière, puis ma fonction, c'est pas d'être une personne trans qui crée des conflits par mon identité, mais je suis vraiment l'infirmière qui est juste là pour donner des soins, puis être la... faire comme... le soin d'une manière la plus comme douce et humaine possible pour les patients. T'sais.
Puis qui n'est pas parfaite non plus, c'est ça que j'ai aimé. Ouais.
Oui, oui, tu sais, elle juge, elle est drôle, elle essaye des affaires, t'sais, mais ils sont tous pas parfaits, on s'entend. Puis aussi, ils travaillent dans un institut qui est vraiment pas parfait, fait que tu sais, ils ont comme bien des choses à patcher, disons.
Ben,
mais...
C'est vrai. Ouais. Alors là, maintenant, je vais poser des questions, peut-être que tu pourras pas répondre. Est-ce que tu vas être dans la deuxième saison?
Oui, ça, je pense, ben écoute, oui, là, je
veux dire... Tu peux répondre à ça, oui.
Ça, je pense que je peux répondre, là. Je veux dire, comme, tu sais, j'ai posé la question à Florence il y a une couple de mois, là, ça fait bien longtemps, en fait, là, puis elle était comme, ben là, évidemment que t'es dans la deuxième saison, mais après, je sais rien de la deuxième saison encore.
Écoute, j'ai vu Florence deux fois, parce qu'elle habite pas loin de chez moi, puis j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Ça se fait pas, hein?
Alors, Non, c'est ça, c'est ça. Même nous, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui va se passer, où va nos personnages. On sait rien, tu sais. Fait que c'est vraiment à suivre, là.
Alors, je reviens donc sur le Jamais lu et la pièce oui. Tombée de moi, qui va prendre, en fait, qui va être présentée, c'est ce jeudi à 20h. Oui. C'est au théâtre aux Écuries. Puis j'aimerais peut-être conclure là-dessus. T'as d'autres projets qui s'en viennent? À part Empathie, oui, ben, évidemment.
Oui, non, c'est ça. J'ai Empathie, évidemment. Ben, je travaille toujours à l'écriture de plusieurs projets, peut-être monter d'autres de mes pièces en théâtre aussi, des pièces que j'ai faites dans le passé ou jamais lu aussi. Donc, c'est très excitant. Puis aussi, en ce moment, je suis en répétition pour la pièce de théâtre, la version qui n'intéresse personne, basée sur le livre d'Emmanuel Pierrot. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça, on va jouer ça au théâtre d'aujourd'hui à Montréal, puis après au Trident à Québec, donc à l'automne prochain. Donc, j'ai ces beaux projets-là qui s'en viennent. Belle répétition, une gang absolument incroyable, une mise en scène magnifique de Marie-Ève Milot avec l'adaptation en fait par Marie-Claude Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment génial, un beau projet à aller voir vraiment.
Lirel Dauphin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va certainement s'en reparler de tous ces projets-là qui s'en viennent.
Merci à vous. Passez une belle journée.
Merci.
Bye-bye.
La presse plus d'hier, des lacunes en matière de santé physique et mentale chez les jeunes, ça commence à avoir des répercussions économiques concrètes là, sur leur début de carrière. Une analyse donc qui souligne que la dégradation du bien-être chez les travailleurs de la relève entraîne une hausse du taux d'absentéisme et une baisse de la productivité, affectant directement leurs revenus potentiels. Au-delà des enjeux médicaux, cette situation pose un défi structurel pour le marché du travail qui doit s'adapter à une main-d'œuvre plus fragile. Plusieurs économistes craignent qu'une entrée précaire sur le marché de l'emploi n'hypothèque la sécurité financière de cette cohorte à long terme. Selon les données récentes, les primes d'assurance collective ont connu une hausse marquée pour compenser l'augmentation des demandes de prestations liées à l'invalidité de courte durée chez les moins de 35 ans. Toujours dans Radio-Canada.ca, dans Radio-Canada.ca du 3 mai, le milieu sportif scolaire célèbre l'engagement exceptionnel de François-Xavier Daigle, un enseignant qui vient de recevoir un prix prestigieux pour son travail sur l'inclusion. Entraîneur de volleyball, M. Daigle a mis au pied une structure permettant aux élèves vivant avec un handicap ou de troubles d'apprentissage de s'intégrer pleinement aux équipes compétitives. Pour ce pédagogue, le sport doit agir comme un levier social où chaque jeune, peu importe ses limitations, peut développer un sentiment d'appartenance et de confiance en soi. Cette reconnaissance souligne l'importance de transformer les barrières physiques et pédagogiques en opportunités de réussite collective au sein des établissements d'enseignement du Québec. Et j'ai encore un petit peu de temps, je vais vous parler que le monde du sport automobile, dans Radio-Canada.ca d'ailleurs du 2 mai, alors le monde du sport automobile et du handisport est en deuil à la suite du décès d'Alex Zanardi, âgé à l'âge de 59 ans. L'ancien pilote de Formule 1 et double champion d'IndyCar s'était impaisiblement en Italie, entouré de ses proches, devenu une icône mondiale de la résilience après avoir perdu ses deux jambes dans un terrible accident en 2001. Il s'était brillamment réinventé en tant qu'athlète paralympique, décrochant 4 médailles d'or en vélo à mai. C'était aux Jeux paralympiques de Londres et de Rio. Son parcours a remarqué les esprits bien au-delà des circuits par sa détermination face à l'adversité. Merci beaucoup donc d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier à la régie. Merci d'ailleurs aussi à Hélène Denis qui sera de retour demain à l'animation, qui m'aide à la recherche. Et puis moi, ben, je vous invite à 17h pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va parler donc du festival Fierté Trans qui a eu lieu en fin de semaine. On va aussi parler de la fatigue de l'identité de genre, la fatigue du genre, parce que les gens qui subissent beaucoup de micro-agressions et de remises en question, c'est toujours difficile à la longue et ça finit par avoir des répercussions. On en parle avec un spécialiste donc, qui sera avec nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à 17h. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Passez une excellente journée. À très bientôt.